Lors de la grande interview du dimanche, notre invitée cette semaine n'est autre que la nouvelle rectrice de l'Université de Fribourg, deuxième femme à accéder à un tel poste en Suisse, Astrid Épinay, par ailleurs directrice de l'Institut de droit européen. Dans l'entretien qu'elle nous a accordé à Julien Magnolet et à moi-même, la rectrice estime qu'il faut supprimer l'initiative populaire rédigée en termes précis. Le peuple ne devrait se prononcer que sur des initiatives formulées en termes généraux, soutient Astrid Épinay. Cela éviterait les frictions qui apparaissent lorsqu'un texte constitutionnel rédigé en termes justement trop précis est en contradiction avec la Constitution ou encore avec les engagements internationaux de la Suisse.
J'ai l'impression que ces dernières années, ces frictions ont vraiment augmenté. Surtout du fait aussi que les initiatives sont plus souvent acceptées. L'initiative sur le renvoi des criminels étrangers en est un exemple. Là, on a une contradiction avec certains principes d'état de droit, la proportionnalité, le respect du droit international. Et c'est vrai que si on continue comme ça, on aura de la peine à garder une certaine cohésion dans le système juridique suisse. Et puis ça crée évidemment une insécurité du droit, ce qui n'est pas souhaitable.
Alors on vous entend de plus en plus de problèmes dans la mise en œuvre des initiatives. Il y a aussi, on l'a vu récemment lors des dernières votations, des initiatives qui récoltent très peu de oui. Hein, c'était le cas, l'initiative pour les verbes libéraux. Qu'est-ce à dire? Est-ce que c'est un système qui ne fonctionne plus ou qui n'est plus adapté peut-être à une Suisse à 8 millions de personnes? Est-ce qu'il faudrait changer le système? Est-ce qu'il faudrait augmenter le nombre de signatures par exemple?
Bon, augmenter le nombre de signatures, on peut en discuter, mais ça ne résoudrait pas le problème fondamental. Il y a des raisons pour une telle augmentation, notamment l'augmentation évidemment de la population. Mais ça ne résoudrait pas le problème fondamental qui est que des initiatives sont utilisées pour des fins pour lesquelles le droit d'initiative n'a pas été au fond conçu. Alors si on veut vraiment arriver au fait que le droit constitutionnel et législatif soit plus cohérent dans son ensemble, qu'on respecte les engagements internationaux, qu'on ne les met pas en cause à chaque fois quand il y a un nouveau problème réel ou imaginé, il y a, à mon avis, qu'une voie, c'est de renforcer l'initiative dite en termes généraux. Ça veut dire, c'est le droit d'initiative, comme maintenant, mais il n'y a pas un article précis qui est introduit dans la Constitution, mais les initiants disent « on veut que le problème tel et tel ou la question telle et telle est résolue de la manière suivante ». Et puis ensuite, c'est au Parlement de formuler le texte pour qu'il puisse être introduit dans la Constitution.
Est-ce que vous pourriez citer un exemple concret ?
Oui, nous prenons l'initiative sur le renvoi des criminels étrangers. Oui. Hein. Alors là, on aurait pu imaginer que l'initiative soit formulée, par exemple, les initiants demandent à ce qu'une disposition soit introduite dans la Constitution qui assure que des étrangers qui commettent des crimes particulièrement graves soient renvoyés. Et puis ensuite, la mise en œuvre aura pu se faire d'ailleurs exactement comme elle se fait aujourd'hui.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on résout du coup, si c'est comme aujourd'hui?
Bon, il y a moins de friction, parce qu'aujourd'hui, on a une contradiction entre le libellé de ce texte constitutionnel et d'autres dispositions constitutionnelles. Et puis s'il y a en plus l'initiative de mise en œuvre qui est acceptée, on a encore une contradiction en plus hein, entre la Constitution et la loi.
Mais avec ce système, avec l'initiative en termes généraux, est-ce que ce n'est pas une manière de se défier du peuple ? L'UDC, par exemple, dit toujours « c'est le peuple qui a raison, c'est lui qui décide ». Or là, vous dites « voilà, en gros, c'est encore plus au Parlement de décider, de faire la loi, de dire comment il faut faire pour résoudre tel ou tel problème ».
Certes, cette idée implique que le droit d'initiative est en quelque sorte un peu réduit. Ceci dit, ça signifie pas forcément moins de démocratie. Parce qu'il y a de la jurisprudence du tribunal fédéral sur ces initiatives en termes généraux. C'est pas une sorte de liberté qui est donnée au Parlement de faire ce qu'il veut, mais il est obligé de vraiment de respecter ce qu'il y a dans cette initiative en termes généraux. Et puis elle est tout simplement pas ou très très peu utilisée jusqu'à maintenant parce qu'on a l'initiative formulée en toute pièce.
Alors, autre exemple, l'initiative contre l'immigration de masse. Comment vous auriez imaginé par exemple que ça soit formulé d'une manière générale?
Alors ça, c'est vraiment un très bon exemple, parce que si on part de l'idée que l'objectif des initiants était qu'on n'ait plus une immigration de 80 000 personnes, le fameux exemple de la ville de Saint-Gall qui immigre chaque année, alors on aurait pu formuler, par exemple, les initiants demandent à ce qu'une disposition soit introduite dans la Constitution qui assure qu'à moyen terme ou en moyenne, l'immigration soit effectivement limitée à un niveau acceptable ou c'est quelque ça. Chose comme ça.
Donc on reste très vague en quelque sorte, on donne l'intention, mais au Parlement ensuite d'en débattre. Mais il n'empêche, est-ce que vous ne risquez pas avec ce genre de modèle d'avoir encore plus de référendums ? Parce que précisément la loi d'application peut-être ne permettra pas aux initiants d'être satisfaits et donc ça sera beaucoup plus attaqué en référendum.
C'est possible, mais c'est justement pas moins démocratique parce qu'on a cette possibilité de référendum pour la loi d'application et là le peuple intervient de nouveau.
Vous l'avez dit, ce type d'initiative en termes généraux, ça existe déjà, c'est dans la Constitution. Ouais. Pourquoi est-ce qu'à votre avis les partis ne l'utilisent pas ? Ils sont pas assez raisonnables ?
Non, parce que c'est évidemment plus efficace d'avoir une initiative formulée en toute pièce, puisque le texte entre tout de suite en vigueur, tandis que l'initiative formulée en termes généraux, ça dure un peu. Il y a quand même plusieurs étapes de procédure. Après, il y a le Parlement qui doit faire quelque chose, etc. Donc, du point de vue des initiants, c'est évidemment plus efficace. Il y a un autre problème qu'on résoudrait avec ce type de droit d'initiative, c'est des initiatives mal formulées, si je peux exprimer ainsi. Exemple, l'initiative sur les résidences secondaires où effectivement il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup d'insécurité de droit et c'est vrai que là on résoudrait aussi ce problème. Alors c'est même possible que les droits du peuple en sortent renforcés puisque on a un meilleur moyen de mettre en œuvre la volonté du peuple avec le Parlement. Et puis en plus, justement, il y a le référendum.
Donc vous, ce que vous proposez ce soir, c'est de supprimer l'initiative en termes précis, de la remplacer par l'initiative en termes généraux ?
Tout à fait, oui. On n'a pas besoin de la remplacer parce que l'initiative en termes généraux existe déjà dans la Constitution.
D'accord, mais vous supprimez le droit d'initiative en termes précis.
Enfin, ce n'est pas moi qui supprime, c'est la proposition. Mais c'est vrai, je n'ai pas l'impression que cette proposition va peut-être rencontrer un franc succès au niveau politique demain.
Encore que, s'il y a tout le temps des frictions, à un moment donné, peut-être que le peuple va se dire que ça ne sert plus à rien de voter puisque de toute manière, après, la classe politique ne sait pas comment sortir de l'ornière.
C'est d'ailleurs un autre problème de ces frictions, que pour la démocratie, c'est peut-être pas vraiment bien si on vote trop souvent sur quelque chose, et puis ensuite on a l'impression que la volonté du peuple, d'ailleurs c'est très difficile de définir la volonté du peuple. Qu'est-ce que le peuple voulait le 9 février ? Alors chacun dit, si ça va pas dans son sens, la volonté du peuple n'était pas. Est-ce que le peuple voulait résilier les bilatérales ? J'en sais rien. Donc c'est très difficile. Alors avec le système actuel, effectivement, on a ce risque de trop de friction. C'est vrai que peut-être dans quelques années, on sera obligé de repenser cette question.
Vous sentez bien que cette thématique-là n'est pas très populaire. Vous pensez que les politiques vont s'en saisir et dire « Bon, maintenant, il faut qu'on modifie quelque chose dans ce système d'initiative ?»
Je crois qu'il y a la conscience au niveau, en tout cas, de beaucoup de politiques. Peut-être pas de tous. J'ai pas l'impression que la politique va reprendre cette proposition, donc de se limiter à l'initiative en termes généraux, dans un avenir très proche. Mais je l'exclurai pas. C'est vrai aussi que pour le moment, peut-être, ça implique un changement de la Constitution, donc un vote du peuple et des cantons. Et je ne suis pas très sûr si, en ce moment, il y a une majorité. Et pour les politiques, le problème, c'est évidemment qui veut s'engager à dire, voilà, on supprime un ouais. droit du peuple. C'est peut-être pas très populaire pour un politique qui... Ouais. Voilà.
En tout cas, c'est exclu, effectivement, cette année électorale. Ça, on peut le dire, sans trop de risque. Autre exemple, Astrid Épinay, c'est évidemment cette initiative de l'UDC qui veut instaurer une primauté du droit interne sur le droit international. Qu'en pensez-vous ?
C'est une initiative qui crée de nouveau des frictions, beaucoup de frictions avec le droit international. Je connais aucun pays qui dit ouvertement, on a des traités internationaux, mais attention, si on change d'idée dans 2 ans, on a une initiative, on l'accepte, on ne respecte plus nos engagements internationaux. Il n'y a aucun pays au monde qui dit cela. Tous les pays prétendent respecter le droit international. Donc c'est vraiment, pour la Suisse, assez dangereux, à mon avis.
Pourquoi est-ce si dangereux de dénoncer, si ça s'est fait dans le passé, de dénoncer un traité qui ne paraît pas conforme aux intérêts du pays ?
Évidemment, on a ce droit, et puis c'est aussi important. Après, c'est une question politique, si on veut ou non dénoncer tel ou tel traité. Là, il n'y a aucune question, mais cette initiative, si elle devient texte constitutionnel, elle va beaucoup plus loin. Elle dit, on ne respecte pas le droit international, même avant qu'il ne soit plus en vigueur pour la Suisse. Donc, on va beaucoup plus loin qu'une dénonciation, qu'on peut toujours faire. Les bilatérales, on peut dénoncer. Il y a beaucoup moins de problèmes pour l'étranger, pour l'Union européenne que pour la Suisse, si on le fait. Mais le texte, l'initiative, dit justement, dès qu'il y a une contradiction, c'est le traité qui ne peut plus être appliqué, même s'il est encore en vigueur.
Voilà, c'était Astrid Épinay, la nouvelle rectrice de l'Université de Fribourg et directrice par ailleurs de l'Institut de droit européen.